Salut, bienvenue dans Vacarme en Réunion. Très content de prendre l'antenne en ce beau dimanche de fin juin. Aujourd'hui, plusieurs choses. On voulait vous faire des annonces, notamment pour vous inviter la semaine prochaine, enfin la semaine qui arrive là, à venir continuer de manifester contre la loi travail, à venir participer à la transformation de cette contestation spécifique à la contamination de champs plus larges de nos existences. Deux rendez-vous. C'est le premier, c'est un rendez-vous mardi. Ce rendez-vous mardi, il aura lieu place de la Libération à Dijon à 14h. C'est un rendez-vous pour une manifestation qui a été déposée par l'intersyndicale, donc c'est une manifestation nationale, mardi 28 juin à 14h, place de la Libération. Et voilà, on vous invite à venir participer à ces manifestations qui sont toujours des moments assez fous quand on arrive à partir en cortège et quand on n'est pas bloqué par tout l'autre cortège, celui policier plutôt. Et on voulait aussi vous inviter à venir à la fête de rue qui est organisée vendredi 1er juillet 2016 à Dijon, et dont le point de ralliement est à 18h30, place du Barreuset, et pour lequel une vidéo a été postée sur internet et qu'on vous propose d'écouter maintenant.
La formule pour renverser le monde, nous ne l'avons pas cherchée dans les livres, mais en errant. C'était une dérive à grande journée, où rien ne ressemblait à la veille et qui ne s'arrêtait jamais. Surprenante rencontre, obstacle remarquable, grandiose trahison, enchantement périlleux. Rien ne manqua dans cette poursuite d'un autre Graal néfaste dont personne n'avait voulu.
La foule en liesse envahit spontanément les rues. On se congratule, on rit, on chante et on danse, parfois même au rythme d'orchestre improvisé. 23h30, un défilé spontané se forme, 2 à 3 000 personnes défilent dans les rues. Le cortège se disloquera à minuit devant la mairie, mais des petits groupes continueront à fêter l'événement toute la nuit, malgré les orages et la pluie.
Il faut manger, il faut manger.
Le plus petit, c'est toi.
Tortellini à la crème et champignons.
Ça va encore.
Il soufflait sur la rue quelque chose d'un peu fou, une brise inconnue, très douce et très enivrante. Cette fois, ce fut une vraie fête.
Voilà, c'est donc l'invitation à venir faire cette fête de rue qui se déroule vendredi prochain, vendredi 1er juillet à 18h30, place du Barreuset. Il y aura de la musique, il y aura des animations diverses, des manières d'investir la rue, etc., etc. Il y a un texte qui a été écrit aussi que je vais m'empresser de vous lire. Le titre, c'est « Il nous croit cuit ». Depuis quelque temps, une évidence a déballé son étalage. Plus personne ne mord à l'hameçon. La France entière est devenue un souk où l'on s'interroge. Qui veut encore se faire cuisiner à petit feu? Qui se rassasie de ces miettes maquillées en promesse de futurs festins? À vrai dire, il ne se trouve plus une âme pour régler l'addition. On se figurait pouvoir nous étourdir de potions statistiques, de chiffres à virgule et d'algorithmes apothicaires. On s'imaginait nous voir beurrer des épinards et frire nos yeux de merlan pendant que d'autres se font graisser la pâte en se baffrant à tous les râteliers. Désormais la coupe est pleine et nous cuisinerons au piquant. Depuis quelque temps, on ne va plus en randonnion. Les sardines ont fait serment d'en finir avec les maquereaux et les citrons montent en pression. Les vagues successives de ces raz-de-marée frémissants n'ont pas épargné Dijon. Avec ses airs d'altesse racornie, il a dû poivrer sa réception. La capitale des ducs, engélatinée dans son marécage de bonne manière, aurait-elle à craindre de devenir ce labyrinthe fangeux où l'humanité grouille en ferment orageux? Excellant dans la boulimie de surface, elle sera bientôt intronisée étoile de la gastronomie par un collège de baveux. Récompense ou châtiment pour celle qui a fait de l'aménagement urbain un art cannibale, dévorant les humains pour les remplacer par des valets à tourisme. Une ville de domestiques pour des ogres en costard. C'est ce qu'on propose au menu. Il n'y aura dans cette anatomie de cauchemar de place pour la fête et l'agitation que dans les colonnes de régurgitation. Alors, amis et alliés de tous bords, appétit de moineau ou faim de loup, lit, sulfure ou vieille barrique, rejoignez-nous à la table des instables pour tenir la dragée haute à cette intoxication. Provoquons dans les rues une indigestion. Prouvons que leurs emprunts ne sont pas encore assez nocifs et leur kyr assez royal pour nous faire renoncer à toute joie. Assemblons-nous pour des libations de carottes cuites, une distillation des remous présents, une inondation ornementale. Ce dont il s'agissait jusqu'à maintenant n'était qu'une mise en bouche. Il est temps que le vase reçoive sa goutte. Rendez-vous le 1er juillet à 18h30 sur la place du Barrezet pour une balade apéritive suivie d'un banquet kilométrique. Voilà pour cette invitation à la fête. À nous, il nous intéressait aujourd'hui de parler d'Anna Arendt, en tout cas de vous lire un texte de Bernard Asp. Bernard Asp qui est un prof de philosophie et qui a écrit notamment « L'instant d'après, projectile pour une politique à l'état naissant » qui est sorti à la Fabrique en 2006. Et on voulait vous faire lecture notamment d'un texte qui fait commentaire d'une conclusion de Anna Arendt. Donc Anna Arendt, qui est cette philosophe allemande qui est connue pour ses travaux sur l'activité politique et le totalitarisme, la modernité. Anna Arendt, c'est quelqu'un qui refusait le titre de philosophe et qui se disait plutôt politologue. Elle se disait plutôt politologue et refusait ce titre de philosophe en considérant notamment que, j'ouvre la parenthèse, la guillemets, c'est elle qui parle, la majeure partie de la philosophie politique depuis Platon s'interpréterait aisément comme une série d'essais en vue de découvrir les fondements théoriques et les moyens pratiques d'une évasion définitive de la politique. Donc elle, évidemment, elle s'inscrit en faux, à l'inverse de ça, et cherche à écrire et à discourir sur en tout cas une philosophie politique. Ses ouvrages sont donc sur le phénomène totalitaire. Ses livres les plus célèbres sont « Les origines du totalitarisme »,« La condition de l'homme moderne », écrit en 58, « La crise de la culture » en 61, et aussi « Eichmann à Jérusalem », qui est un titre qui sort à la suite du procès d'Adolf Eichmann, qui est un nazi. Donc, la conclusion qui va être discutée là, c'est une conclusion qui est faite à un livre qui devait sortir qui s'appelle Qu'est-ce que la politique, enfin qui devait s'appeler Qu'est-ce que la politique. En fait, ce livre n'est jamais sorti, mais par contre il y a un bouquin qui a regroupé pas mal de ces textes qui devait être pensé pour ce livre en entier et qui est sorti il y a quelques années. Et les textes d'Anna Arendt qui sont traduits dans ce bouquin, donc qui s'appelle Qu'est-ce que la politique, sont nés d'une rencontre avec l'éditeur allemand Piper en 55, qui lui avait proposé d'écrire une introduction à la politique. Anna Arendt s'occupa pendant de nombreuses années de ce projet, qui devait être pour le printemps 58. Elle préparait alors la publication de 6 conférences Walgreen sur le travail du corps humain et l'œuvre de nos mains, prononcée en avril 56 à l'université de Chicago, où elle avait exposé sa réflexion sur le travail, l'œuvre, l'action, première ébauche de la condition de l'homme moderne. Elle préparait en outre la version allemande, mais qui s'appelle « Entre passé et futur, 6 exercices de pensée politique », et dont 4 articles allaient être réintégrés à la crise de la culture. Enfin, elle écrivait sa conférence sur la révolution hongroise, le système des conseils lui apparaissant comme la seule résistance possible face au totalitarisme. Comme le montre sa lettre à Piper datée de 59, elle prit du retard et le projet avait subi de nombreuses modifications, au point que le chapitre originellement prévu sur la guerre et la révolution étant devenu matière à un volume entier, elle se proposait d'écrire un second volume, répondant à la question « La politique a-t-elle finalement encore un sens ?» La lettre, adressée en décembre 59 à la Fondation Rockefeller, en vue d'obtenir une subvention lui permettant de mener à bien sa tâche, est encore plus instructive. On y apprend que ses plans remontaient à l'année 55 pour le moins, qu'elle disposait de larges extraits au brouillon, et qu'une des raisons pour lesquelles elle avait dû différer ce projet tenait à la rédaction concomitante de La Condition de l'Homme Moderne, publiée en 58. Plus encore de l'aveu d'Arendt, La Condition de l'Homme Moderne, où sont analysés le travail, l'œuvre et l'action, était conçue comme une sorte de prélogomène au livre que j'ai l'intention d'écrire maintenant, et qui reprendra la question à l'endroit où s'achève le précédent. Il sera exclusivement centré sur l'action et la pensée, donc nous dit Arendt. Face au refus de la Fondation, Anna Arendt renonça à son projet qui ne survécut plus que sous la forme de conférences. Introduction à la politique et philosophie et politique, qu'est-ce que la philosophie politique ? Donc qui sont des titres de conférences, sans pour autant détruire les manuscrits. Ils sont au nombre de 7. Et dans l'édition de Qu'est-ce que la politique, l'éditeur a rajouté un chapitre sur la position socratique et très judicieusement la conclusion d'un cours que Arendt a prononcé au début d'année 55 à l'université de Berkeley et qui s'intitule « Du désert et des oasis ». Et donc c'est de ce texte-là, « Du désert et des oasis », que Bernard Asp va faire la discussion et qu'on vous propose d'écouter maintenant. Ça dure une quarantaine de minutes. C'est un peu dense, mais c'est très instructif. Bonne écoute.
Texte d'Anna Arendt entre Oasis et désert, conclusion de Qu'est-ce que la politique ? La croissance moderne de la perte en monde, le retrait de tout ce qui est entre nous, peut aussi être décrit comme l'extension du désert. Nietzsche fut le premier à reconnaître que nous vivons et que nous nous mouvons dans un monde désert. Et c'est aussi Nietzsche qui commit la première erreur décisive en établissant ce diagnostic. Comme presque tous ceux qui vinrent après lui, il croyait que le désert était en nous-mêmes. Il se révélait ainsi non seulement comme l'un des premiers habitants conscients du désert, mais aussi, du même coup, comme la victime de son illusion la plus terrible. La psychologie moderne est la psychologie du désert. Quand nous perdons la faculté de juger, de souffrir et de condamner, nous commençons à penser que quelque chose en nous ne va pas si nous n'arrivons pas à vivre dans les conditions de vie du désert. Dans la mesure où la psychologie tente de nous aider, elle nous aide à nous adapter à ces conditions, en portant notre seul espoir, l'espoir que nous, qui ne sommes pas issus du désert, bien que nous y vivions, soyons capables de le transformer en un monde humain. La psychologie met tout sans dessus-dessous. C'est justement parce que nous souffrons dans les conditions du désert que nous sommes encore humains et encore intacts. Le danger est que nous devenions de vrais habitants du désert et que nous nous y sentions chez nous.
Le plus grand danger est qu'il y ait des tempêtes de sable dans le désert, que le désert ne soit pas toujours calme comme un cimetière où, en fin de compte, tout reste possible, mais qu'il puisse déclencher par lui-même un mouvement. Ces tempêtes sont les mouvements totalitaires, dont la caractéristique majeure est d'être extrêmement bien adaptés aux conditions du désert. En fait, ils ne comptent sur rien d'autre et semblent donc constituer la forme politique la plus adéquate à la vie dans le désert. La psychologie, discipline de l'ajustement de la vie humaine au désert, et les mouvements totalitaires, tempêtes de sable dans lesquelles la fausse action ou la pseudo-action soudain surgit en faisant éclater un silence de mort, présentent l'une comme les autres un danger imminent pour les deux facultés humaines qui nous rendent capables de transformer patiemment le désert plutôt que nous-mêmes, les facultés conjointes de la passion et de l'action. Il est vrai que lorsque nous sommes pris dans les mouvements totalitaires ou dans les ajustements de la psychologie moderne, nous souffrons moins. Nous perdons la faculté de souffrir, et avec elle, la vertu d'endurer. Ceux qui sont capables d'endurer la passion de vivre dans les conditions du désert sont les seuls en qui nous pouvons avoir confiance, pour rassembler en eux le courage qui est à la racine de l'action, qui est ce qui fait agir un être.
Plus encore, les tempêtes de sable menacent même ces oasis sans lesquelles aucun de nous ne pourrait endurer le désert. Tandis que la psychologie ne fait qu'essayer de nous habituer tellement à la vie du désert que nous ne ressentions plus le besoin d'oasis. Les oasis sont ces domaines de la vie qui existent indépendamment, en grande partie du moins, des conditions politiques. C'est la politique qui est allée de travers, c'est-à-dire notre existence au pluriel, et non pas ce que nous pouvons faire et créer en tant que nous existions au singulier. Dans l'isolement de l'artiste, dans la solitude du philosophe, dans la relation intrinsèquement dépourvue de monde entre les êtres humains, comme celle de l'amour et parfois de l'amitié, quand un cœur s'adresse directement à l'autre, comme dans l'amitié, ou quand l'entre-deux, le monde, s'enflamme comme dans l'amour. Si ces oasis n'étaient pas intactes, nous ne saurions comment respirer, et les spécialistes en sciences politiques devraient le savoir. Si ceux qui doivent passer leur vie dans le désert à essayer d'y faire ceci ou cela, et à s'inquiéter constamment de ces conditions, ne savent pas quels usages faire des oasis. Ils deviendront des habitants du désert, même sans l'aide de la psychologie. En d'autres termes, les oasis qui ne sont pas des lieux de détente, mais des sources de vie qui nous permettent de vivre dans le désert, sans nous réconcilier avec lui, se tariront.
Le danger contraire est beaucoup plus commun. Son nom usuel est escapisme, la fuite. On s'échappe du monde du désert, de la politique vers n'importe quoi. C'est une manière moins dangereuse et plus subtile d'anéantir les oasis que les tempêtes de sable qui menacent leur existence, pour ainsi dire, de l'extérieur. En tentant de fuir, nous transportons le sable dans les oasis, comme Kierkegaard qui, essayant d'échapper au doute, transporta sans doute lui-même dans la religion lorsqu'il fit son saut dans la foi. Le défaut d'endurance, la faillite à reconnaître et à endurer le doute comme l'une des conditions fondamentales de la vie moderne, introduit le doute dans le seul domaine où il ne devrait jamais entrer, le religieux au sens strict, le domaine de la foi. Cela n'est qu'un exemple qui vise à montrer ce que nous faisons lorsque nous tentons d'échapper au désert. C'est parce que nous anéantissons les sources de vie que sont les oasis, lorsque nous y allons dans le but de fuir,
qu'il semble parfois que tout conspire à généraliser les conditions du désert. Mais c'est également une illusion. En dernière analyse, le monde humain est toujours le produit de l'amor mundi, de l'homme. Il est un artifice humain dont l'immortalité potentielle est toujours soumise à la mortalité de ceux qui le construisent et à la natalité de ceux qui viennent y vivre. Les mots d'Hamlet sont toujours vrais. Le temps est hors de ses gonds. Ô sort maudit, qui veut que je sois né pour le rejointer ? En ce sens, en tant qu'il a besoin de ceux qui commencent pour pouvoir être recommencés, le monde est toujours un désert. Ce sont encore ces conditions de perte en monde qui fit sa première apparition à l'âge moderne et qui ne doit pas être confondu avec le détournement chrétien du monde pour l'autre monde, qui engendrèrent la question de Leibniz, Schelling et Heidegger. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Quant aux conditions spécifiques de notre monde contemporain, dont la menace n'est pas seulement l'être rien, mais aussi l'être personne, elle devrait engendrer la question « Pourquoi y a-t-il quelqu'un plutôt que personne ?» Ces questions peuvent paraître nihilistes, mais elles ne le sont pas. Au contraire, ce sont les questions anti-nihilistes qui se posent dans la situation objective du nihilisme, où l'être rien et l'être personne menacent de détruire le monde.
Le sable du désert.
À la fin, l'un d'eux l'avait appelé. « Venez, voici le parfum le plus doux. » Et il l'avait entraîné dans l'embrasure d'une fenêtre béante, par laquelle s'engouffrait, palpitant, le souffle vide du désert. « Voilà bien le parfum des parfums, » lui dirent ses guides. « Il n'a pas d'odeur. » Wilfred Thesiger, Le désert des déserts.
Dans un texte qui se présentait comme la conclusion possible d'un ouvrage sur la politique qui n'a jamais vu le jour, Hannah Arendt évoque ce qui, selon elle, constitue pour nous le principal danger. Que nous devenions de véritables habitants du désert et que nous nous sentions bien chez lui. Que nous ayons trouvé les oasis depuis lesquelles l'avancée du désert se laisse percevoir comme un phénomène après tout supportable. Une possible accoutumance à un état des choses désastreux a sa source dans cela même qui nous permet de respirer, dans ce qui, au sein de cet état des choses, nous préserve, et que réciproquement nous cherchons à préserver. De ces oasis habitables, Arendt voit les exemples dans l'isolement de l'artiste, dans la solitude du philosophe, dans l'amitié et dans l'amour. Autant de passions antipolitiques, comme elle le dit ailleurs, concernant plus particulièrement l'amour, la plus puissante peut-être de toutes les forces antipolitiques. Les oasis sont ce par quoi le monde, entendu comme espace commun, est oublié, au profit de ce que peut être, comme puissance de création, une existence attachée à sa singularité, ou à celle de l'être choisi, aimé. Elles ne sont pas des mirages, des fictions entretenues par l'ennemi, elles n'ont rien à voir avec la logique du spectacle. C'est précisément parce qu'elles sont réelles. C'est précisément parce qu'en elles, la vie peut véritablement trouver ce qui était contenu dans les promesses de la vie, qu'elles peuvent égarer. Mais cet égarement ne conduit pas à une fausse réconciliation. Elles sont des fontaines qui dispensent la vie, qui nous permettent de vivre dans le désert sans nous réconcilier avec lui. Leur existence nous persuade qu'il est effectivement possible de composer avec ce que nous voudrions combattre, sans que cette composition soit un reniement. On pourra même y voir les plus profondes objections faites au désert et à son avancée. Ainsi en est-il pour l'art, à qui a été conférée la charge de résister, par sa seule existence, pour peu que celle-ci se tienne à distance de toute concession avec ce qui est posé comme son antithèse, et par là comme le condensé des mots du système, nouvelle figure du mal, le commerce.
Mais c'est alors, plus que jamais, que les oasis peuvent être dites égarantes, parce qu'elles sont réelles et parce que leur réalité peut effectivement demeurer irréconciliée. C'est parce que cette irréconciliation existe que les oasis sont des lieux de fuite, une fuite d'autant plus difficile à stopper qu'elle ne ment pas. Ou plutôt, elle ne ment pas pour ce qui concerne la réalité de ces lieux, mais elle ment forcément pour ce qui concerne le rapport qu'ils entretiennent avec ce qui demeure leur milieu. Car si ce rapport est bien d'irréconciliation, c'est une irréconciliation qui s'arrête, qui doit s'arrêter. Précisément parce que la fuite, elle, ne peut s'arrêter. C'est une irréconciliation qui a la forme d'une fuite à l'intérieur du désert. Et c'est pour cette raison qu'on la nomme résistance. Elle a besoin de son milieu. C'est par lui qu'elle se définit. Vivre dans les oasis, c'est avoir choisi la fuite. Et alors, nous fuyons. Nous laissons entrer le sable dans les oasis. Le désert est ce qui fait des sources vives, autant d'abris qui, par leur nature même d'abris, sont condamnés à subir l'intrusion de ce contre quoi ils nous protègent. Conséquence inéluctable, parce que les oasis qui peuvent dispenser la vie sont anéantis lorsque nous y cherchons refuge. À ces oasis, il aurait fallu demander autre chose que cette protection. Mais l'état du monde, l'avancée du désert, semble ne pas l'avoir permis. Elles ne peuvent dès lors que se laisser envahir par ce vis-à-vis, de quoi elles ne sauraient demeurer un dehors.
Il y a peu à ajouter à ces analyses rédigées dans les années 50. Peut-être seulement ceci. Aujourd'hui, la même chose peut se dire des tentatives politiques elles-mêmes, et plus seulement des seules puissances antipolitiques. C'est vrai pour les organisations militantes, en tant qu'elles remplissent efficacement, c'est-à-dire de façon tout à fait minimale, une demande d'appartenance, et qu'elles ont désormais de plus en plus de mal à cacher que c'est là leur seule fonction. Mais bien plus, c'est ce que vérifient les collectivités autonomes, qui constituent de façon plus évidente encore des milieux d'intériorité insérés dans un vaste milieu hostile. Ce sont elles surtout qui semblent indiquer combien la situation a changé, dès lors que les oasis peuvent être peintes aux couleurs de la guerre politique. Que, pour autant, elles n'en demeurent pas moins ce qu'elles sont, à savoir des lieux de fuite. Et on ne nous fera plus croire, comme il était dit dans les années 70, que la fuite est révolutionnaire. Reste qu'il y a deux façons de confondre la résistance et ce dont elle n'est que le tenant-lieu, l'acte politique. La première énonce que la résistance, celle qui est par exemple associée à l'édification d'une œuvre, est comme telle politique. La seconde, que la résistance, en tant que nécessairement collective, est nécessairement en rupture avec les modes de vie disponibles à la gestion capitaliste, est une expérimentation du communisme.
Et où ?
Dans « Le philosophe et ses pauvres », Jacques Rancière insiste sur le paradoxe contenu dans le rapport entre le communisme et la révolution. La voie prolétarienne indiquait dans ce rapport l'évidence d'une continuité et permettait de voir dans la révolution l'événement instaurateur du communisme, et dans celui-ci, la vérité à la fois anticipée et effectuée par les actes révolutionnaires. Cette voie a échoué. On a peu relevé que, parmi les raisons de ces échecs, il y a d'avoir buté sur un obstacle paradoxal. Celui d'une rencontre en quelque sorte anachronique avec le communisme lui-même, un communisme d'avant la Révolution. Dans des manuscrits de 1944, Marx écrivait « Lorsque les ouvriers communistes se réunissent, c'est d'abord la doctrine, la propagande qui est leur but. Mais en même temps, ils s'approprient par là un besoin nouveau, le besoin de la société et ce qui semble être le moyen est devenu le but. L'assemblée, l'association, la conversation qui a de la société pour but leur suffisent. La fraternité humaine n'est pas chez eux une phrase vide, mais une vérité, et la noblesse de l'humanité brille sur ces figures endurcies par le travail. Rancière commente. Mais là est le problème propre à transformer l'enthousiasme du communiste en désespoir du révolutionnaire. Cette noblesse de l'humanité, qui brille déjà sur des fronts qui devraient, pour produire la noblesse de l'humanité future, en avoir perdu jusqu'à l'apparence. Car le prolétariat est précisément ce qui n'est nécessairement révolutionnaire que de n'avoir rien à perdre, ayant tout perdu, y compris, comme Marx l'écrit ailleurs, l'apparence d'humanité. La rigueur de la logique hegelienne, qui promet le renversement du règne de la nécessité en règne de la liberté, impose jusqu'à la qualité d'humain cette désattribution qualitative, fruit d'un processus négatif et socle d'une positivité nouvelle. Les artisans arriérés, incapables de comprendre la théorie révolutionnaire, sont dès lors bien souvent ceux qui l'ont trop comprise. Ils sont sans doute ceux qui n'ont pas voulu renoncer à leurs attachements. Seulement, ce n'étaient pas d'abord des attachements au métier ancien, mais à la théorie révolutionnaire elle-même et aux nouveaux liens qu'elle instaurait. Ils l'ont trop comprise pour l'avoir entendue comme une bonne nouvelle, par laquelle ils ont été littéralement emportés.
Rancière évoque un émissaire des communistes de Londres parti pour la Suède pour rencontrer les ouvriers allemands, à qui il est arrivé de ne pouvoir interrompre son périple, même après avoir épuisé les tracts qu'il avait amenés, et quitte à se retrouver en un lieu où lui-même risquait peu de trouver du travail, en territoire lapon. Enthousiasmé par la théorie révolutionnaire, prêt à aller convaincre les prolétaires jusqu'où ils ne s'en trouvent plus, les artisans, ou Straubinger ralliés, sont au plus près de ce que réclame la révolution. À un détail près, ils ont le tort d'être déjà des communistes. L'obstacle à la transformation des Straubinger communistes en prolétaires révolutionnaires, ce n'est pas leur qualité d'artisan, c'est leur qualité de communiste. Et l'émissaire de Londres en est l'emblème. Lui qui, ayant tout quitté pour la cause révolutionnaire, en vient à promener son pur être de communiste dans les solitudes du Nord. Les révolutionnaires soucieux d'annoncer la bonne nouvelle, en même temps que d'organiser la possibilité de son entente, se sont trouvés en présence de ce qui, dans leur discours, n'avait une place que dans le futur. Anachronie qui aurait pu conduire à voir dans cette tension subjective une alternative, un choix à faire entre ce communisme paradoxalement expérimenté et les rigoureuses exigences d'une révolution. Mais l'émissaire errant, ou le Straubinger accaparé par les discussions, eux, n'ont pas choisi. Et c'est cette absence de choix, curieusement, qui leur donne pleinement raison. C'est d'avoir tenu sur l'impossible nouage des temps qu'ils sont exemplaires, d'avoir indiqué que c'est autour de cette impossibilité que se tisse l'expérience révolutionnaire.
Guerre.
À considérer le temps présent, quelque chose d'analogue peut s'observer aujourd'hui dans les collectivités qui conçoivent l'autonomie matérielle, à la fois comme geste radical de soustraction à la vie marchandisée sous le règne du capital et comme préparation à l'effondrement, déclaré inéluctable de ce dernier. Que le communisme soit expérimentable ici et maintenant est l'objet d'une affirmation explicite, de même que se trouve thématisée l'inversion qui fait précéder la révolution comme acte du communisme, comme expérience. Reste à concevoir clairement la modalité de cette inversion. Elle peut être comprise de la façon la plus plate. Si le communisme est ce qui se vit ici et maintenant, la révolution est ce qui viendra en son temps. Les deux sont alors disjoints, ou plutôt relié du seul biais d'une attente de l'effondrement du monde capitaliste, ainsi que le thématise en particulier Crisis. La logique se veut antithétique de celle qui préside au grand rassemblement militant. Subjectivement, elle n'est pas différente, en ceci au moins, qu'elle se structure en un rapport qui ne peut être qu'un rapport d'attente. L'être en rupture ou en décrochage suffit alors comme tel à absorber toute la charge de conflictualité politique. Là où ça ne suffit pas, des incursions sporadiques parmi les mouvements où se vérifie chaque fois que les gens sont incapables de se détacher de leurs intérêts, de leurs identités sociales, chômeurs, étudiants, cheminots, suffisent à conforter dans l'idée que là, c'est-à-dire ailleurs, dehors, dans ce reste de ce qui s'est appelé espace public, rien ne se passe. Mais ce n'est là qu'une impasse désormais assez évidente pour ceux-là même qui transitent dans ces milieux, pour ceux qui cherchent une continuité avec le dernier grand mouvement révolutionnaire européen. Autonomie signifie autre chose qu'une attente et une préparation de l'effondrement, quelque chose comme un héritage. Pour les autonomes italiens des années 70 ou pour les membres de groupes révolutionnaires tels Lotta Continua, ce n'est pas seulement le communisme, c'est la révolution qui est déjà là. Mieux, c'est le communisme, mais le communisme comme révolution. Contre l'imposture du délai, les autonomes italiens des années 70 ou pour les membres de groupes révolutionnaires tels Lotta Continua, ce n'est pas seulement le communisme, c'est la révolution qui est déjà là. Mieux, c'est le communisme, mais le communisme comme révolution. Contre l'imposture du délai, de l'altermoiement, il s'est agi de dire que le contenu entier de la bonne nouvelle portée par le mouvement ouvrier était à vivre, en tant qu'acte et en tant qu'expérience. C'est en ce sens qu'Éric De Luca a pu écrire
« Nous étions le communisme ».
Et c'est là, peut-être, la seule voie pour que le communisme, comme expérience, ne devienne pas lui-même une oasis. Que l'expérimentation ne soit pas séparée des actes. Que ceci est même une préséance, sans quoi se recompose ce que la visée communisme ne peut considérer qu'avec une extrême méfiance. Des milieux clos, des exceptions voulues telles, communistes, d'être seulement collectives et installées dans le refus des valeurs bourgeoises.
Ce n'est donc plus exactement ici à une inversion dans l'ordre du temps que l'on assiste, comme dans le paradoxe mis en évidence par Rancière. Mais, en un sens, ce n'est qu'un approfondissement du même paradoxe, c'est-à-dire une complication dans la tension du temps. Ce que le motif de la Révolution a introduit dans ce que l'on peut appeler l'histoire des attitudes de vie et de pensée en tant qu'inséparables, l'histoire de l'éthique, c'est une sorte d'accident du temps, très mal approché par la faible catégorie d'utopie. Le mouvement autonome, en ses multiples composantes et ramifications dans toute l'Europe et aux États-Unis, a certes été défait. Mario Tronti a proposé de considérer cette défaite comme clôture ultime du mouvement ouvrier révolutionnaire dans son ensemble, point final d'une histoire, ou plutôt d'une contre-histoire, une politique, qui a existé pendant plus d'un siècle et demi. Mais la complication qui l'a introduite demeure comme notre principal héritage. Et cette complication est elle-même compliquée par la clôture dont parle Tronti. Le temps est désaccordé. Il ne l'a jamais été davantage. Giorgio Colli faisait cette remarque. Le futur n'existe pas. Le présent existe à peine. Seul le passé existe pleinement. Seul le passé contient ce qui est au-delà de l'imagination, au-delà même du vécu. Ce que l'expérience communiste et les actes révolutionnaires ont eu de réel. Mais ce qui aurait dû avoir lieu, ce qu'annonçaient Marx et les révolutionnaires, n'a pas eu lieu et en ce sens demeure encore devant nous, mais demeure comme déchirure, accroc, dans le tissu du temps. Et à l'inverse, tout ce qui ne pourra être expérimenté que plus tard, ou jamais, est déjà là, comme un passé jamais vécu, depuis lequel seulement les vocables anachroniques du communisme et de la révolution recommencent d'avoir sens. Le futur n'est réel qu'à renvoyer au non-événement ou au non-avoir eu lieu de l'événement, qui, comme tel, concerne chaque instant, chaque césure possible du temps. Le présent n'est réel qu'à faire exister ce qui n'a pas de lieu en ce temps. Une hétérochronie fait la matière existentielle d'une vie à nouveau révolutionnaire. Le temps issu de la subjectivation révolutionnaire est un temps en lui-même désajointé et porteur d'une hétérogénéité au regard de ce qui vis-à-vis de lui fait figure de temps présent.
Résister, c'est créer.
Si la caractéristique centrale des luttes ces dernières années est indéniablement celle d'un arrêt avant quelque affrontement réel, la raison n'en est pas dans les illusions dont se berceraient les catégories socio-professionnelles attachées à leurs identités. Enseignants, intermittents, chômeurs sont éventuellement prêts à tenir le discours le plus radical, le plus dénué de toute perspective de compromis, y compris avec ce qui tient encore lieu, dans le paysage français, de vestiges de la gauche. Ce ne sont pas même leurs intérêts dits matériels qui donnent la clé du problème. Ils sont bien sûr tous, comme n'importe qui vivant dans un espace délimité par un état-providence, des rentiers du mouvement ouvrier, en ce que celui-ci aura eu de plus ambivalent. La conséquence la plus massive de ces conquêtes, ou des effets de ces conquêtes, aura été une mise à distance de la politique, qui pose le problème de la continuité révolutionnaire, ou post-révolutionnaire, par-delà les rives glacées des années 80. Mais il y a autre chose qui nécessite un arrêt si précoce, quelque chose qui concerne la possibilité d'attacher au métier, et au statut eux-mêmes, enseignants, il arrive que se pose pour eux le problème de la transmission, entendu comme vocation. Pour l'intermittent du spectacle, il peut y avoir l'évidence d'une vie tournée vers la création. Pour le chômeur, celle d'un temps libéré de la peine salariée, celle d'un communisme éventuellement solitaire, où dans une journée peuvent effectivement coexister la musique, les mathématiques et la pêche. Ce qui est dit de l'intermittent artiste peut l'être, les analyses négristes ont ce mérite de le montrer, du concepteur de logiciels, du publicitaire, voire du cadre d'entreprise. Là où ces analyses égarent, c'est de souder ces traits subjectifs à la réalité supposée, déjà donnée d'une alternative, ou plutôt d'une transition, interne au capitalisme.
Pour Negri, la nouvelle forme du capitalisme est issue d'une recomposition originée dans la nécessité de répondre à la radicalité des mouvements des années 60-70. Il voit dans l'émergence de nouvelles figures productives le revers de cette recomposition, c'est-à-dire là aussi une sorte de communisme déjà là, mais délesté de sa part de refus, expérimenté dans les seules capacités créatives de coopération. La créativité de là ou des multitudes est à la fois chez Negri ce qui permet au capital d'asseoir de nouvelles formes de valorisation et ce qui, par sa seule créativité, le menace d'implosion. Elle en est le pur revers déductible, à la fois comme source d'exploitation et comme puissance d'antagonisme. mais c'est cet « à la fois » qui est mythologique. Il procède d'une analyse qui élude ce qui fait la teneur de la réalité subjective, qui doit justement être saisie depuis l'impossible articulation entre ce qu'elle est comme source de valorisation et ce qu'elle est comme puissance de conflit. L'ultra-gauche croit devoir opposer que les supposées capacités créatives de la multitude ne sont que le signe d'une aliénation qui ne cesse de s'approfondir. En réalité, les traits qui caractérisent les figures contemporaines renvoient plutôt à une impossibilité que ne cerne aucune astuce dialectique. Celle pour quiconque de démêler ce qu'exige l'attachement à une vie qui vaut d'être vécue et ce qu'exigerait politiquement le rapport même entre cette vie et la situation présente, qu'on la prenne comme situation faite à la planète ou comme ce qu'une offensive démocratico-libérale configure localement d'injustice.
Comme telle.
Comment comprendre les attitudes observables aussi bien dans les collectivités autonomes que dans les luttes? Aussi bien parce que, en dépit de différences relevant de modes de vie, il y a un point commun tout à fait central, une erreur commune. Le créateur négriste, le chômeur heureux faisant en acte une critique du travail, le polytechnicien autonome qui agence des possibilités de vie collective, et bien sûr l'artiste qui ne souffre aucun compromis, tous sont des figures réalisant cet idéal, selon quoi l'accomplissement de soi est comme tel l'acte le plus radicalement politique. À cet égard, le communisme conçu comme expérimentation par le seul biais de la vie collective et de la communisation, aussi juste soient les raisons de cette expérimentation, n'est pas déterminant. La logique est la même que celle qui fait dire à l'artiste, le plus sincèrement du monde, que son engagement passe dans les œuvres qu'il écrit ou met en scène. Là encore, ce n'est pas faux, tout au moins ce n'est pas simplement faux. C'est vrai au regard des attachements réels que sont susceptibles de faire exister une expérimentation collective et une expérimentation sensible. C'est faux dans la double mesure où 1. Un tel engagement ne saurait être à la mesure de ce contre quoi il croit mener un combat. 2. Le problème de la politique aujourd'hui ne saurait plus se dire en termes d'engagement. L'usage de ce vocable fait symptôme d'une mise à distance. Par quoi la politique est soit dissoute dans une forme de l'agir créateur, soit projetée dans l'extériorité de l'action citoyenne militante et festive. On peut dès lors comprendre que les débats lors du mouvement des intermittents aient été tournés vers cette alternative entièrement mystifiée. Soit je m'engage dans mon art et pour mon art, soit je m'engage au dehors, dans les manifestations et les actions. Tout le problème est au contraire de faire que ce qui est porteur de vie soit comme tel apporté dans les actions, qui dès lors ne peuvent plus guère, il est vrai, être citoyennes, militantes et festives.
Il n'y a pas de problème de l'engagement, il y a seulement un problème de passage entre ce qui fait la vie et ce qui la fait tenir, et ce qui fait la politique. Il y a à comprendre comment les luttes politiques et les sources de vie peuvent ne pas demeurer disjointes ou hâtivement raccordées. Les enfants gâtés de l'Occident ne sont pas ceux qui ont les moyens d'une vie luxueuse, mais ceux qui ont la possibilité de choisir la vie qui va être une vie d'accomplissement. Et c'est seulement par ces biais qu'il n'y a pas une si grande différence entre eux, enfants gâtés, et ceux pour qui le problème se dirait en termes de survie. Au moins en ceci que, dans les deux cas, est à trouver un passage de la vie à la politique, contre les évidences qui ont appris à tenir disjoints ces deux termes, ou à les lier dans les trois carcans du militantisme. Si un tel passage n'existe pas, la politique, y compris celle que font les luttes et les mouvements, demeurera sans prise sur les situations où elles émergent. Et les oasis de vie seront, ainsi que le prévient Arendt, condamnées à être comme telles l'espace d'une vie mutilée, d'une vie aveugle. Arendt est pourtant suffisamment clair. Les oasis qui dispensent la vie sont anéanties lorsque nous y cherchons refuge. Et c'est aussi à ce moment qu'elles deviennent des obstacles les plus indépassables, précisément parce qu'ils ne peuvent être l'objet d'une démystification. Le besoin d'abri est un besoin éprouvé non seulement face au désert, mais face au type de réponse qui exige l'avancée du désert. En ce sens, l'oasis, surtout lorsqu'elle se veut intrinsèquement politique, est un abri contre la politique elle-même. Mais que se passe-t-il alors si l'on n'y cherche pas un refuge? Si elles ne sont pas d'ultimes abris condamnés par la précarité de leur site, alors c'est la logique d'ensemble qui peut commencer de s'inverser, et par là de s'éclairer. Inverser cette logique, c'est dire trois choses.
Si les oasis existent, on ne peut plus s'y rapporter comme à des abris, des refuges.
S'il y a une manière d'agir qui soit à la mesure de l'état des choses, c'est une manière réellement, effectivement polémique, un parti pris dans la guerre en cours.
Si dès lors il existe un espace habitable, ce ne peut être que celui configuré par cette politique même, unique espace où les sources vives peuvent être éprouvées comme telles.
S'en déduit une possible définition du communisme, comme seule politique qui donne abri aux puissances antipolitiques, précisément en les exposant.
Planète.
Les oasis dont parle Arendt ne sont pas condamnées seulement en tant qu'elles composent, par leur irréconciliation même, avec le désert. Elles le sont aussi d'un point de vue qui concerne ce que l'on a appris à penser comme état de la planète. État désastreux que semble pouvoir désigner la métaphore d'une avancée du désert. Le problème est que, dès que l'on cherche à mettre en rapport cet état ou ce désastre avec une perspective politique soucieuse de reparcourir les éléments de la tension dont parle Rancière, le lien nous est dérobé, ou plutôt, il est par avance canalisé dans les protestations et revendications des mouvements écologistes, lesquels, gestionnaires ou radicaux, doivent envisager la visée de leur intervention comme préservation des espèces en voie de disparition, des sites, des conditions de vie, ou comme restauration d'un rapport de l'homme et de la nature, notamment dans la version primitiviste. Pour les autres, la liste des événements ou des prévisions qui donnent à entendre, en un sens tout autre sans doute que celui que donnait Benjamin à ce constat, que la catastrophe n'est pas à venir, mais déjà là, ne peut être soutenue qu'avec ce mélange de panique et d'accoutumance qui caractérise tout rapport à ce qui est posé comme incommensurable, d'une incommensurabilité d'échelle. Dans tous les cas manque un lien, par quoi l'état de la planète ne serait pas ce qui donne occasion au listage des irréversibilités sur lesquelles il n'y a prise qu'au niveau de l'Empire. Lui-même, l'Empire, étant par définition hors de portée, et aussi pris dans une irréversibilité qui l'apparente à une méga-machine thanatotélique. Ce qui découle tout d'abord de la méga-machine désormais configurée en empire, c'est une mutation climatique, par quoi les formes vivantes et les formes de vie d'ores et déjà condamnées sont celles établies en milieu polaire. Il y a encore des déserts de glace, des glaciers, mais ce sont eux qui vont inévitablement céder dans les années qui viennent, quelles que soient les victoires écologistes obtenues à l'Assemblée et l'extension des ralliements autour des accords de Kyoto. C'est pourtant de là, peut-être, qu'il faut partir, c'est-à-dire de ce qui est radicalement insauvable. Le lien qui peut demeurer tangible, non dérobé par des effets d'échelle, c'est le lien à l'insauvable en tant que tel, ce qui n'est objet ni de préservation, ni de restauration, trop tard dans les deux cas, mais trop tôt pour savoir ce qu'il y aurait à en faire. Simplement, et aussi paradoxal que ce soit, c'est depuis l'insauvable que quelque chose comme une bonne nouvelle peut trouver à se faire entendre. Bien des tentatives récentes ont cherché à concilier les démarches a priori antithétiques du marxisme et de l'écologie. Il se trouve que ce qui peut être repris de ces deux hypothèses closes ne trouve à s'articuler qu'à reprendre aussi ce qui faisait le fond d'une pensée si méfiante à l'égard de tous les militantismes, si hautaine, si embrasée d'elle-même que le fut la pensée de Nietzsche.
Injustice des soleils.
Indifférent aux autres soleils, ainsi vont tous les soleils. C'est au fond la seule lamentation de Zarathoustra, le porteur de la bonne nouvelle que l'humanité n'est pas encore prête à entendre. Dieu est mort, et cela est une source infinie de joie. Le surhumain n'a plus à se charger de la faute et du manque. Il est tourné vers l'affirmation. Sa clarté n'admet aucune nuit. Mais c'est là sa douleur. Il ne peut que donner et jamais recevoir. Tout solaire, la lumière des soleils lui est sans secours. Sa seule ombre, c'est que sa clarté soit sans nuance. C'est de là que peut se tirer la litanie des mauvais arguments. Par quoi est repoussé le moment d'entendre la bonne nouvelle ? On nous parle d'affirmations sans reste, mais que ferait-on sans l'aigreur, l'insatisfaction et la mesquinerie ? Que ferait-on sans ce que nous avons besoin incessamment de corriger ? Que ferait-on sans le manque, nous qui avons appris que le manque d'un manque, c'est la définition même de l'angoisse ? Que ferait-on sans la domination, sans les pouvoirs que nous nous sommes habitués à combattre ? Ainsi a-t-on appris à argumenter, à objecter, à suspecter tout ce qui présente une lumière sans contraste.
Le seul moment où l'annonciateur du surhumain nous donne raison, c'est celui où il éprouve la nostalgie de son ancienne condition, celle à laquelle nous sommes si désespérément attachés, celle du mélange de la joie mélangée, de l'amour et de l'amitié mélangée, du courage mélangé, de la vie mélangée. Le seul moyen d'entendre encore la bonne nouvelle, c'est pourtant de dire que le temps des excuses est fini, le temps des bonnes excuses, par quoi se trouve par avance barré un chemin inexploré et passé. Personne n'est plus à même de prouver que les précautions auxquelles il enjoint ont plus de justesse, plus de valeur, que ce qui suppose de n'en pas tenir compte. Il n'y a plus de légitimité à se caler dans la dénonciation des utopies, des mirages doucereux d'une vie délivrée de toute douleur, de l'infantilisme associé à ce mirage. Cette dénonciation a un son, un goût, trop moral, c'est-à-dire arbitraire. Il n'est plus temps de prendre au sérieux ces précautions, ces mises en garde, de leur prêter oreille plus qu'à la démesure associée, à tort ou à raison, à ce qui veut passer outre. Adorno a écrit que le but de la révolution était de supprimer la peur. C'est une bonne approche de ce que serait cette démesure. Il n'y a pas d'humanité condamnée à ses lacunes, à ses manques, phobies et névroses, à sa satisfaction libérale. Il y a seulement la possibilité de voir ce que serait autre chose que l'humain, puisque l'humain est cet être à qui il a été donné de pouvoir surmonter l'insuffisance qui l'aura été. Une humanité plus qu'humaine, délivrée de la noirceur obligée, délivrée de la sagesse et de l'utopie. Mais cette plus qu'humanité n'existe que tragique. Tragique, c'est-à-dire non pas rabattue sur quelque faute constitutive, mais ayant à porter des actes trop grands pour elle, et ne pouvant attendre d'être suffisamment forte pour les porter, ne pouvant compter sur sa capacité à combler son retard, s'installant au contraire dans ce retard qui est le sien, qui la définit, qui est le lieu même qu'elle doit habiter. Elle qui doit d'abord peu à peu se défaire de la gangue de douceur matriarcale, celle, elle ne le sait que trop désormais, du bio-pouvoir. L'espace dans lequel peut advenir une entente de la bonne nouvelle, c'est seulement l'espace où se disposent les bribes d'une révolution qui concerne à nouveau, sur un mode qui n'a plus rien d'utopique, l'avenir, la coupure du temps. C'est l'espace où la bonne nouvelle se voit restituer sa charge politique, celui où les sources vives trouvent abri pour l'abri qu'elles sont, celui où les temps se nouent par l'impossibilité même de leur raccord.
Matière solaire.
Il y a quelque chose d'inadéquat dans le texte d'Arendt, non pas dans les remarques, ni dans la perspective qu'elle dégage, pas même dans son pessimisme, mais dans la métaphore qu'elle utilise, le désert et le ravage, ou le désastre, saisi dans son avancée. L'oasis y est isolée, repérable de loin en loin, considérée aussi bien à l'échelle du temps, d'une vie, qu'à celle qu'offre une coupe d'ensemble de la vie des contemporains. L'image est juste dans la mesure où elle met en évidence la nécessité des insulations et les effets de piège attachés à cette nécessité. Le problème est que le désert ne se prête pas à une telle métaphore. S'il est abordé comme milieu de vie, le sable n'est pas ce qui réverbère, éblouit et assèche, sans être aussi ce qui donne protection à l'eau de pluie, par l'infiltration qu'il permet, empêchant ainsi une trop rapide évaporation. Car c'est le problème de toute vie dans le désert, accumuler des réserves d'eau, se faire un corps tel qu'il puisse emmagasiner ces réserves et les rendre accessibles. Plantes, animaux et humains ont ce même problème, et des techniques singulières pour y répondre, y compris par captage des techniques des eaux. Aride, le désert est le contraire de ce qui est sans vie. Il est l'exemple du milieu où se composent, se sont composées les formes vivantes et les formes de vie les plus rebelles au captage par le monde moderne et sa dévastation ouatée, condensée dans la forme du tourisme. Il est possible que cette rébellion soit sur le point de finir. Mais c'est cela qu'il faut retenir du désert. Un milieu qui, comme tel, a longtemps tenu à distance les évidences libérales. Quelque chose fait du désert, en particulier s'il est désert de glace, l'image de ce qui est insauvable. Mais pas sans qu'il soit aussi, simultanément, l'image qui indique la possibilité, seule accessible, du retournement. Et c'est exactement la nécessité de lier l'insauvable et la puissance du retournement qui définit la teneur des actes à hauteur de ce temps.
Regarde cette montagne. Autrefois, c'était du feu.
C'est ce qu'aurait dit Cézanne dans une de ses promenades avec Gasquet auprès de la Sainte Victoire. « Nous étions nous-mêmes cette matière incandescente, disait-il. Nous avons là notre origine, nous venons de là. » Le désert est peut-être le lieu où se conserve le mieux cette mémoire. Non pas le soleil, mais la matière qui est faite de soleil, sur la terre. La glace iridescente, ou le sable du désert. Le sable du désert n'est pas la surface d'un sol stérile, mais la matière éparpillée d'une incandescence maintenue vive. Ce que l'Empire déploie à l'échelle de la planète, ce n'est pas un désert, mais un terrain de jeu, foot ou vidéo. Il nous revient de faire vivre, à distance du terrain de jeu impérial, et comme sa réfutation souterraine, le souvenir du sable brûlant. I got my head, but my head is unraveling. Can't keep control, can't keep track of where it's traveling. I got my heart, but my heart's no good. And you're the only one that's understood. I come along, but I don't know where you're taking me. Shouldn't go, but you're reaching, dragging, shaking me. Turn off the sun, pull the stars from the sky. The more I give to you, the more I die.
Perfect drug.